Balado Diffusion est une production de Delta Media.
Bienvenue à cette émission spéciale Top Décennie 1990 dans le cadre du concours Retour vers le passé. Ouais, sauf qu'elle là.
La bouche pile, c'est ça? Non, c'est quoi?
Ah! On n'a pas de plutonium. Car on peut pas aller en 1990 tout de suite. Non, c'est ça, sérieusement, il faut faire nos devoirs avant.
Ouais, on va travailler là-dessus.
Il faut dévoiler les gagnants des Oscars, des Césars et des Razzies.
Ben en fait, non, les Razzies, on n'aura pas le temps. Donc, vous irez sur le site de cinemascope.nelta.net. Sur la page d'accueil, il va y avoir un lien pour les Razzies. Même chose pour les catégories des Oscars qu'on n'aura pas nommées.
En tout cas, comme je t'ai dit, tu as 10 minutes pour passer à travers tout ça.
Mais Seigneur, arrête-toi.
Parce que j'ai pas l'intention que ça grille du temps pour nos tops 90. Fait que je me tais et je te laisse aller déjà direct là. Ping bang, c'est parti.
Oh! On commence par ça. On s'est fait dire par un internaute.
Un de nos fidèles.
Un fidèle fan, on va le nommer, Erwin. Salut Erwin. Contacte-nous. D'ailleurs, je lève ma bouteille et je te rends hommage. Il nous demandait en fait, pourquoi qu'on avait laissé tomber la bière dans les émissions. Il aimait bien ça. Ça faisait frugal et convivial. Et, on l'a pas laissé tomber, Erwin. Pas par doute. Elle est toujours là. C'est juste qu'on oublie de la mentionner. On est comme des vieux Soulons. Là. On a pris ça pour acquis. Tout est pris pour acquis. Puis on boit. Puis on oublie.
Parce que depuis un certain temps, c'est carrément des cruches.
Oui, c'est des méchants de maillotches. Là. Puis là, comme prévu, nous avons une magnifique cruche de presque 2 litres. La précédente émission aussi. Elle s'appelle À l'affût. Une microbrasserie de je sais plus où, là, du centre du Québec. Et la bière que nous allons boire s'appelle. Attendez que je vérifie.
La Mickinoise. Hein?
Non, c'est la British. Alors.
Ah voilà. Le son.
Tu l'as entendu? Mm. Merveilleux. Alors, nous allons lever notre verre à tout le monde. Ah non, ça va jeter. Non, c'est correct. Okay. Ça brouette. Santé. Fait que. Puis, bon, moi, je commencerai par les Césars.
Ouais, je suis d'accord.
Puis, je vais m'excuser d'avance pour les Césars parce que, malheureusement, nous, ici, les distributeurs ne semblent pas très intéressés par les produits français. On a quand même quelques salles, comme le CLAP, entre autres, de Cinéma Quartier, qui tentent d'en faire la diffusion. Mais je regarde les gagnants, là, des César, puis disons que j'en ai pas vu un Moses. Il y a le prophète que je me promets de voir. Je vous le dis, je vous le jure, je mets ma main au
feu comme Superman.
C'est sûr que je vais le voir. Fait que sur le site de cinemascope.delta.net, très prochainement, vous allez voir une critique. Parce qu'il gagne tout. Un prophète, en fait, c'est ça le vrai titre, c'est Un prophète de Jacques Audiard. Et il rafle tout, peu importe où il va. D'ailleurs, je pense aux Brit Awards, les Oscars anglais, il avait gagné meilleur film étranger. De mémoire. Puis tant qu'à en parler, je vais tout de suite le mentionner. Aux Oscars, il n'a pas gagné. Mais ça, j'y reviendrai tantôt. Bon, fait que là, les Césars. Les gagnants seulement, je vais juste mentionner les gagnants, là, parce que bon, c'est pratiquement Un prophète qui a tout raflé, pratiquement. Le meilleur acteur, Tahar Rahim. Les meilleurs décors, qui étaient de Michel Barthélémy. Le meilleur montage, de Juliette et Wolf Fling. Le meilleur acteur dans un second rôle pour Nils Arenstrom. Meilleure photo, Stéphane Fontaine, c'est encore Un prophète. Meilleur espoir masculin, et encore Tahar Rahim, parce que c'est son premier rôle au cinéma. Qu'est-ce qu'il a gagné en plus? Meilleur réalisateur pour Jacques Audiard. Meilleur scénario, Jacques Audiard, Thomas Bidguin, Abdel Rouf Dafri, Nicolas Peufeilly. Qu'est-ce qu'il a gagné pour ça? Bon, évidemment, le meilleur film. Quand tu gagnes tout ça, ben, t'es meilleur film quand même. Hein? Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? J'en ai sûrement oublié. Mais bon, comme vous pouvez le constater, il y a 6-7 prix minimum, 7 Césars pour un prophète. Et il vient tout juste de sortir, nous, chez nous, au Québec. Ensuite, meilleure musique écrite pour un film, c'est Armand Amar pour Le Concert. Le meilleur espoir féminin, c'est Mélanie Thierry. Espoir féminin, il me semble que ça fait longtemps qu'elle roule, hein, Mélanie Thierry. Oh, c'est drôle, en tout cas. Pour le film Le Dernier pour la route, meilleure actrice, c'est Isabelle Adjani dans le film La Journée de la Jupe, qui a été descendue. Je me rappelle d'avoir lu. Excusez. Ben, c'est vrai. Il me semble, de mémoire, j'ai lu dans quelques magazines français que le Journée de la Jupe, c'était pas terrible. Pourquoi tu ris? Ah, c'est des jokes plates, ça. Franchement. Il fait un geste de baisser la
robe. Je te dis, la Journée de la Jupe a été descendue.
C'est un gars, il est dans un... Ah, il y a du plaisir. Ah, j'avoue que c'est vrai que ça faisait bizarre. Ouais. Ça m'est pas venu à l'esprit. Moi, je fais toujours des affaires de même. Que je vois jamais venir. Là. Bon. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Emmanuelle Devaux pour À l'origine. Là, tous les autres films là, que je nomme, là, au Québec, c'est zéro point de barre. Hein. On les a pas. Meilleur documentaire, bon, je le nomme pareil, quand même, à cause du titre, c'est L'Enfer d'Henri-Georges Clouzot, réalisé par Serge Bromberg et Roussandra Medra. Le meilleur premier film, c'est Les Beaux Gosses. Ah, Les Beaux Gosses, je pense, j'ai vu passer à l'automne passé. Ouais, je crois que oui. Je ne l'ai pas vu, là, mais il me semble que oui, il est venu, on l'a eu, lui. C'est réalisé, Les Beaux Gosses, c'est réalisé par Riyad Satouf. Meilleure adaptation, c'est Stéphane Brisé, Florence Vignon pour le film Mademoiselle Charbon. Meilleur film étranger, c'est Gran Torino de Clint Eastwood. Clint Eastwood est très apprécié là-bas. Ben, quoi qu'il y ait ici aussi. Là. Il gagne beaucoup de prix. Mais cette année, il a été boudé, Gran Torino, par les Oscars. Ensuite. Bon, les autres nous intéressent plus ou moins. Là. Il y a eu un César d'honneur pour Harrison Ford.
Ouais.
Ça, c'est spécial. Pourquoi? Ben, bon, c'est sûr que Harrison Ford, c'est Yann Solo, c'est Indiana Jones.
Ouais, le poil là. Hein? Il joue dans les films français, c'est quand même.
Ben, de mémoire, le dernier film français, c'est Frantique. Ça, ça fait 20 ans, là, tu sais. Il me semble. Puis encore là, français. C'est encore drôle, là.
Ouais.
Et je pense qu'il dit pas un mot, juste un mot français, là. En tout cas, ben, ça, c'est les Césars.
Bon.
C'est ça. Je suis désolé. Je me promets de voir un prophète. C'est sûr. On est-tu prêt pour les Oscars?
Je veux juste éteindre ma TV, ça me déconcentre.
Ça te déconcentre? Eh, moi, c'est ça, TV. Mais là, Willis, moi, je vais commencer à parler des Oscars. Alors, la cérémonie se tenait, il y a de ça, quoi, c'était le thème, attendez que je vérifie, le 7 mars, c'était ma soirée, ma M-A en majuscule, c'est mon Super Bowl, c'est pas compliqué, c'est... je peux pas manquer ça. Alors, on va commencer par les meilleurs effets spéciaux. Ça, c'était un no-brainer, c'est-à-dire, c'était gros comme le bronze, ça va être tout qui allait gagner. Je ne renomme pas les nominations, on va juste nommer le gagnant. C'est Avatar. Ça, je l'ai eu. Ça, c'est pas compliqué. Personne ne peut se tromper. Là. Ça, c'est facile. Meilleur maquillage, je l'ai eu aussi. Et tu devrais être content. Si t'es au courant des gagnants?
Non.
Danny, non. C'est Star Trek qui a gagné. Amplement mérité, je pense.
Oui.
Il y a du maquillage. Là.
C'est subtil, plus.
Ouais, mais...
Il n'y a pas de créature.
Non, ben, j'aime des de l'académie, le maquillage, souvent, c'est pas nécessairement le fait que ça flash. C'est, ben justement, regarde, je vais juste donner un exemple de ce que j'avance. Il Divo, le film italien, était en nomination pour le meilleur maquillage. C'est pas un film de science-fiction ou fantastique ou quoi que ce soit, là, c'est un film politique. C'est ça qui est intéressant. En tout cas, Star Trek, je suis bien content qu'elle a gagné, puis je l'ai eu. Bon. Meilleur montage, là, je me suis pas trompé non plus, puis c'était mérité. C'est le film de Le Démineur, The Hurt Locker. C'est d'ailleurs l'année du film Hurt Locker. Là. Sur 8 ou 9 nominations, il y en a eu 6. C'est une rasure, c'est pas compliqué. Avatar, là, il s'est fait laver. Ha! Ouais, là, ils ont fait. Ouais. Il est content parce qu'il n'a pas trippé dedans que ça. Bon. Bon, j'espère. Meilleur film d'animation, ça, c'était facile, ça aussi. Quoique, il y a certains pensaient peut-être que ce serait Coraline, qui est pas mauvais en soi. C'est un bon film, l'as-tu vu, Coraline?
Oui.
C'est bon, quand même.
Oui.
As-tu vu Là-haut?
Oui.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est Là-haut qui a gagné.
Ah.
C'est normal. Oh. C'est pratiquement normal. Pixar sort, il gagne. C'est pas compliqué. Pixar arrive, puis c'est ça. Attendez-vous à voir Toy Story 3 en nomination, là, l'année prochaine, là. Il sort cette année. Fait que c'est Là-haut qui a gagné pour le meilleur film d'animation. Meilleur scénario. Là, j'avoue, sans rien enlever au gagnant, j'étais déçu. Parce que j'avais un gros penchant pour Quentin Tarantino. Et son film Inglourious Basterds, qui lui a rien gagné. Ah, il a gagné un prix. J'y reviendrai tantôt. Mais scénario, là, il y avait une job, là.
Effectivement.
Tu sais, il revenait à ses premières amours. C'est du Pulp Fiction numéro 2, là. C'était excellent, là. Scénario, c'est l'histoire, puis là, on brode autour, puis du texte, puis... C'était bien amené dans le film. Moi, c'est voyons, c'est facile. C'est Tarantino, voyons, non, c'est quoi cette histoire-là? Mais non, c'est Mark Ball du film Le Démineur. OK. J'ai pas à critiquer le choix. Ils sont quand même 6000 à voter, puis bon. Il y en a souvent plusieurs comme moi qui ont pensé qu'on a un Tarantino, puis bon, le vote s'est divisé, puis c'est Mark Ball qui a gagné. Bon, c'est ça, hein, c'est la démocratie. Mais le monsieur est pas content. En tout cas, meilleure adaptation. Monsieur, c'est moi, là. Pas Tarantino, il s'en sac. Meilleur film en langue étrangère. Là, je me dis, là aussi, vu que j'en ai pas vu un Moses, je me dis, mais regarde, ça aussi, c'est un no-brainer. Un prophète a dans une nomination, il gagne tout, partout. Partout où il se présente, il gagne tout. Voyons, facile. Bon, je vais voter pour un prophète. Ben non. C'est... Attendez, il faut que je regarde, là, parce que je suis pas capable de le nommer. Et c'est Secreto de Sus Ojos, un film argentin, connu de ni d'Ève ni d'Adam, sauf des 6000 qui l'ont vu à l'Académie, qui a gagné. Ça, c'est encore une fois, l'Académie nous montre qu'il snob les films français. Il y a une guéguerre, là. Je la connais même pas, je ne sais même pas l'origine de cette guéguerre-là entre la France et les États-Unis. Mais un prophète en paye le prix. Bon, je suis déçu, là. Sûrement qu'il est bien bon, le petit film argentin, là. Mais vous le saurez pas parce que je le verrai pas. Ben, quand est-ce qu'on va l'avoir ici? Hein? Ça me dit rien, ça. Fait que c'est ça. Meilleur réalisateur. Bon, là, je me suis pas trompé parce que les Oscars veulent faire toujours des... Tu sais, des punch. Ils veulent se montrer, se... marquer leur année par quelque chose là, d'extraordinaire. Là. Fait que c'était la première fois qu'une réalisatrice était en... Ben, pas la première fois, c'était déjà arrivé par la suite, mais il fallait qu'elle gagne cette année. Première femme réalisateur, Catherine Bigelow a gagné pour Le Démineur, c'est amplement mérité. Elle a fait une très belle job, excellent job en fait. Elle a battu son ex, James Cameron, qui s'en est pas formalisé le soir même quand il a vu qu'elle a gagné, il était bien content, il s'est levé, il souriait, il était heureux. De toute façon, lui, il a quoi être heureux, là, il est milliardaire. Là, meilleure actrice. Bon, ben là, j'en ai parlé vaguement, brièvement, lors des Razzies. Moi, j'ai un... C'est très subjectif, là. J'ai un penchant pour Meryl Streep. Bon, elle avait déjà battu, à ce soir-là, cette année-ci, un record pour le plus de nominations, ce qui est 16. 16 nominations dans sa carrière aux Oscars. C'est énorme, là. Énorme. Mais j'ai pas vu le film The Blind Side, L'éveil des champions. Ils ont donné ça à Sandra Bullock. Personnellement, Sandra Bullock, je trouve qu'elle a pas vraiment une once de talent. Elle est très bonne. Elle joue bien la fille d'à côté. Là. C'est une bonne... Comment je peux dire ça? Une bonne comédienne pour les petits films sentimentaux. Bon. En tout cas. Fait que c'est elle qui a gagné. Bon, c'est un bravo championne aussi, là. A gagné. J'en reparlerai plus longuement quand j'aurai vu le film. Si j'ai changé mon fusil d'épaule. Meilleur acteur. Et je suis content. Quoique je crois de mémoire, dans l'émission, l'émission des Oscars, j'avais voté pour Morgan Freeman. Mais par la suite, je me suis pas trompé. Le soir même, j'ai vu le buzz. Puis c'était amplement mérité. C'est M. Jeff Bridges qui a gagné. Un vieux de la vieille, lui aussi, il roule sa bosse depuis un certain temps déjà. Jeff, pour le film Crazy Heart, qui joue un vieux cowboy chanteur, s'est mérité le meilleur acteur cette année. Dans le film Crazy Heart. Bon. Première cette année au niveau des films, on l'a déjà mentionné. 10 films au lieu de 5. Et c'était compliqué. J'ai eu de la misère à voter le soir même. Parce que je vous disais, c'est tous des films. Il n'y a pas un film qui sort du lot. Ben, selon moi, là. Il n'y en a pas un qui fait « Wow! » Ça, c'est le Titanic, là. T'sais. C'est lui qui va tout gagner. C'est le Seigneur des Anneaux. C'est sûr qu'il gagne tout. Il dit, ah, ouais, peut-être lui, c'est bon. L'ensemble de l'œuvre, ouais, peut-être, oui, bon. Il y en a plusieurs qui auraient voulu Avatar, mais genre, j'ai toujours dit que c'était sûr que c'était pas lui. C'est sûr. Le scénario était assez anémique, là. Fait que là, qui choisir? Bon, je me suis pas trompé, je l'ai eu. Mais c'est pas parce que j'ai vraiment trippé sur le film. Allez voir ma critique. Même pas si c'est pas une critique, mais je pense pas que c'est une rafale. Hurt Locker, le démineur, j'ai aimé. Mais j'étais pas pâmé, là. C'est un film de guerre correct, très réaliste, qui fait son temps, là, qui est dans son temps, tu sais, dans l'air du temps. Mais de là à donner meilleur film 2009, là, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. En tout cas, c'est lui qui a gagné pareil. Là. Mais comme je vous dis, cette année, c'est plus... À cause qu'il y a 10 films, selon moi, le vote s'est divisé sur les 10. Puis lui, il a juste eu, c'était quoi, 10 votes de plus que l'autre, là, t'sais. Tu sais, c'est de même que ça marche, là. Cette année, c'était pas évident. Au niveau du meilleur film. Fait qu'il est juste chanceux d'avoir gagné, selon moi, là. Fait que c'est ça. C'est les gagnants des Oscars.
Bon, c'est fait.
Oui, ça, c'est ma phrase fétiche. C'est fait.
Donc, là-dessus.
Là-dessus, on va en pause.
Oui, je redémarre la DeLorean. Ben, j'ouvre la porte.
On rentre dedans. On part. On l'a pas entendu. On peut pas revenir dessus.
Donc, après la pause, on s'en va dans la décennie de 1990.
Vous aimez le cinéma? Vous êtes nostalgique? Alors, Cinémascope vous propose de reculer dans le temps en participant au nouveau concours Retour vers le passé. Pour participer, vous devez nous faire parvenir par courriel une liste de vos 10 films préférés, soit de la décennie 1990, 1980 ou 1970. Vous pouvez nous fournir les 3 listes, mais une seule suffit pour être éligible au concours. À gagner, un film de votre choix parmi vos listes que vous aurez fournies, plus la trilogie Back to the Future en DVD, gracieuseté du club vidéo Cinécure, 840 Mirand, Québec. Et pour couronner le tout, une magnifique réplique de la DeLorean à l'échelle 1/15e, avec effet de son et lumière. Gracieuseté de la boutique Cinéma Passion, 51 boulevard René-Lévesque Est, Québec. Le tirage au sort aura lieu durant la 100e émission de Cinémascope en balado-diffusion, mise en ligne le 5 mai 2010. Pour tous les détails, consultez cinemascope.delta.net. Bonne chance à tous et à toutes!
Mais là, c'est que vous n'avez pas le visuel, là, mais là, vous avez juste le son. Mais là, la... Hé, merci! Oh, qu'elle est belle. Ça, c'est... Ce que vous entendez présentement, c'est la DeLorean. Qui... Et avec des éclairages bleus tout le tour. Ah, c'est la réplique hein, parfaite. Là. Elle est belle, c'est fou. Ah, Colin, le concours que je peux pas participer. Coudonc.
Ben, si vous voulez aller avoir une DeLorean,
allez chez.
Boutique Cinéma Passion, 51 boulevard René-Lévesque Est, Québec.
Oui, Québec, la province, évidemment. Et à Québec, la ville. Bon, ben, on est de retour de la pause, là.
Oui.
On vous a fait assez languir.
Oui, top 10 décennies 1990.
Moi, j'étais un vrai bébé quand on parle de... Quand on est rendu à des bebelles, puis des listes de films, puis... Ah, Seigneur! Mais c'est moi qui commence, là?
Oui.
C'est moi qui commence. Bon. Alors, j'ai pas de... Comme j'ai mentionné dans l'émission précédente, moi, j'ai pas de liste 1 à 10. c'est un top 10, c'est-à-dire 10 films pas meilleurs qu'un autre. C'est ça. C'est les films qui sont sortis du lot. J'ai des bonnes notes, fait que je vais commencer par les bonnes notes. Le premier qui est sorti du lot, tout de suite, ça a été T2.
Oui.
Terminator 2.
1991.
Ouais, réalisé par James Cameron, qui encore maintenant, selon moi, fait date au niveau des effets spéciaux.
Encore.
Je trouve qu'il fait la job. Je l'ai vu dernièrement, là, parce que j'ai fait mes devoirs à cause du numéro 4 qui sortait l'année passée. Puis il y a encore la gueule, là.
Et, comme tu le sais, j'ai pas trippé tant que ça sur Avatar.
Mm-hmm.
Et Terminator 2, il n'y en a pas tant que ça des effets spéciaux. T'sais, c'est souvent quand que le T-1000 est là.
Oui, surtout, entre autres, surtout. Là.
Mais tout le reste, c'est intéressant quand même. Que ce soit la poursuite en moto. Là, dans
le... En moto avec le camion qui court après, oui.
Tu sais, c'est encore un très bon film.
Ah, oh, c'est un excellent film. Un excellent film qui allie très bien science-fiction, divertissement... comédie, ben, un petit peu comédie, là, parce que pas, dès que tu mets un enfant en jeu, je sais pas pourquoi, ça vire familial un petit peu. Mais Terminator 2, c'est justement bien dosé ça. C'était pas trop enfantin. Je veux pas, c'est quand même un tueur, un robot tueur du futur qui essaie de tuer là, l'enfant. Là, mm. Bon. Ben finalement, tantôt je disais que j'allais parler des bonnes notes, mais finalement, je suis parti direct dans ma liste. Là, là. Je sais pas, ok. Je fais un aparté.
Mm-hmm.
Je rouvre les guillemets, je mets mes bonnes notes. C'est pas correct, en tout cas. Une bonne note, Speed. Le film clenche.
Sérieux?
Oui. J'avais aimé ça, puis je l'aime encore, parce que ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'il y a comme trois films en un. Il y a trois moments d'action en un. Il y a le premier, c'est l'ascenseur.
Ouais.
Le deuxième, évidemment, c'est l'autobus. Et la troisième, c'est quoi donc? Eh mon Dieu. Je sais que la troisième n'a aucun lien avec l'autobus en soi. Non. Une poursuite quelque part là, après le machin, dans le métro peut-être.
Ouais, exactement.
C'est vague, moi. Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais je me rappelle. Ça m'a marqué pareil. Puis, c'était quand même un des meilleurs films de Keanu Reeves où qui montrait qu'il avait un petit peu plus de talent que juste sa face de bœuf. Puis, Sandra Bullock commençait aussi sa carrière. Et ça, c'était Yann DeBon qui avait réalisé le film. Yann DeBon qui était chef photographe, si je ne me trompe pas, sur Die Hard, je crois. En tout cas, lui, à la base, c'était directeur photo. Il a fait un excellent job sur ce film-là, Speed.
Ben, j'ai aimé. Je suis juste surpris que tu aies mis ça dans ton top 10.
Ben, c'était une bonne note. C'est pas...
Okay.
Il n'est pas dans mon top 10. Okay. C'est une bonne note parce qu'il m'est revenu beaucoup en tête souvent. Fait que tant qu'à l'avoir en tête, je vais le noter. Puis finalement, oui, il est bon. Pas le 2, là. Non. Pas du 1. Face Off aussi.
Oh, ben là, tu me surprends encore.
Ah ouais?
Parce que t'arrêtais pas de me dire que c'est ordinaire, ce film-là, c'est plat.
Ben, il m'a marqué. Sais-tu pourquoi il m'a marqué? C'est l'idée est excellente. L'idée de base est folle. Travolta joue Nicolas Cage.
Exact.
Nicolas Cage joue Travolta. Tout le long du film, puis encore 10 ans plus tard, tu dis. Voyons, qui joue qui, là? Qui fait quoi? Qui est le bon? Qui est le méchant?
Et, bon, c'est sûr que la manière que c'est fait, on le sent peut-être un peu plus avec Nicolas Cage. Parce qu'on le voit plus souvent,
je pense. Ouais, c'est sûr.
Et vraiment, on a l'impression que il y a quelqu'un de pris dans ce corps-là. Là.
Ben, vous voyez Nicolas Cage, puis il faut que vous imaginez, ce qui n'est pas sûr, mais il faut que vous imaginez que c'est John Travolta.
Qui est pris dans ce corps-là.
Ben, c'est fou, hein? Moi, j'aime ça. L'idée de base est folle.
Il n'est pas pris dans le corps, il est pris avec le visage.
Ouais, c'est ça. Il est pogné avec le visage d'eux. Puis il doit jouer la game du policier. Puis Travolta joue la game du méchant. Alors, c'est... Encore présentement, le film de John Woo, qui était un de ses premiers en sol américain. Pas le premier, là. De mémoire, le premier, c'était Hard Target avec Jean-Claude Van Damme. Je sais pas, c'est un film d'action policier qui a de la gueule. excusez, je joue le mot. Là. L'autre, je vais le nommer parce qu'il n'est pas dans mon top 10, puis ça m'a pas marqué tant que ça. Même si je vois toutes les vertus cinéphiles du film. C'est American Beauty de Sam Mendes. Avec, je pense, Kevin Spacey, je pense, de mémoire.
Oui.
Si je ne me trompe pas. C'est un bon film. Excellent film, en fait. il est pas dans mon top 10 parce que ça vient pas me chercher, ça vient pas me chercher mes tripes. Oui, c'est cérébralement, tu sais, intellectuellement, ça me représente. Mais moi, j'ai besoin des deux. Quand je vois un film, quand un bon film a besoin de faire les deux. Autant au niveau de ma tête que dans mes tripes.
Ouais.
Puis là, American Beauty, c'est plus la tête qui travaillait. Là. Ça fait, ah oui, c'est bon, ah oui, franchement, le texte est bon, les comédiens sont bons. Mais viscéralement, non, c'est, ça faisait pas. Ah, oh, Colin, oui, j'ai vécu ça. Ou, ah oui, c'est rough. Puis, non, c'est une bonne satire du système américain. C'est de, du noyau familial. Là, c'est une bonne. C'est un bon film, pareil. Mais il n'est pas dans mon top 10. Je donne une bonne note. Parce que ça, c'était mes années universitaires. Bon, revenons à nos moutons.
Oui.
Deuxième de ma top 90. The Usual Suspects. Témoins sous surveillance. Non, c'est quoi dans... Et c'est quoi en français?
Attends un peu, là. Avec Harrison?
Non. Usual Suspects, c'est de Bryan Singer. C'est avec Gabriel
Byrne.
Kevin Spacey qui jouait l'handicapé, qui faisait le témoin.
Ah oui.
Il y avait qui avait. C'est quoi le titre en français? Mon Dieu Seigneur. J'aurais dû faire mes devoirs. J'ai rien que le titre en anglais. D'ailleurs, j'ai la VHS chez nous. La cassette VHS. Non, je me rappelle pas du titre en français. Mais peu importe. L'histoire était tellement bonne, là. Je l'ai pas vu venir, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs, je suis convaincu. Mais là, maintenant, depuis le temps, on peut le dire, c'est quoi le punch, ça? Le petit Kevin Spacey qui se fait interroger par la police, puis se fait torturer par la police, puis et qui fait semblant qu'il était handicapé, puis que il prend toute son information, il compte toute une histoire, il invente une histoire à la police pour juste pouvoir sortir de là, puis virer ses témoins de big méchant, finalement. C'est moi qui les ai tous tués. Je ne suis pas le témoin. Je suis l'assassin. Mais personne ne le suit. Parce que je vous ai inventé une histoire à partir de brides d'informations que je prenais sur le babillard, ou de mémoire, ou à partir de ce que le policier me raconte. Fait que Spacey, d'ailleurs, ça l'a révélé. C'est ce, un des films qu'il a mis sur la map, avec le film Seven.
Ouais.
D'ailleurs, il y avait même Siro, d'ailleurs, en plus, dans Seven. C'est quoi ça en français, The Usual Suspects? Colin. Une sorte de témoin, là. Mais en tout cas, ça ne vient pas à l'esprit, ça. Je ne me rappelle plus. Fait que, bon, c'est mon numéro 2 des années 90. Ben, c'est pas le deuxième meilleur, là. Mais voici un des films que j'ai aimé. Un film que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je n'aime pas le style western. Ben, j'aime pas. Non, je ne tripe pas western. Mais celui-là m'a marqué beaucoup. C'est Unforgiven. En français, c'est Impardonnable. De Clint Eastwood. Sorti en 92, de mémoire. Je me rappelle de l'avoir vu avec ma mère. J'ai forcé ma mère à venir avec moi. En fait, elle voulait être avec moi. Puis, ça a donné que c'était ce film-là qui jouait. Puis, elle est venue. Puis, c'est pas son genre pantoute. Puis, on aimait ça. Puis, ça a été une bonne soirée. C'est sûr que c'est nostalgique. Tu sais, j'ai des souvenirs de rattacher à ça. J'étais avec ma mère. Je vais pas souvent au cinéma avec ma mère à l'époque, en plus. Dans un vieux cinéma qui est fermé à ça, dans le bout de la Canardière. Les galeries de la Canardière. Je sais pas si tu connais ça, proche de l'hôpital Giffard. Il y avait un cinéma-là. Je me rappelle, c'est là que j'avais vu. Unforgiven, qui était avec Morgan Freeman, Eastwood, évidemment. Gene Hackman. Un film de vieux cow-boy qui achève. Là, la route achève, là. C'était lourd, c'était dur, c'était sale. Il me semble que le Far West, c'était ça. C'était pas stylisé, c'était juste ça. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, il avait gagné plusieurs Oscars à l'époque, si je ne me trompe pas. Unforgiven. Je l'ai nommé tantôt, je le renomme, parce qu'il en fait partie de ma liste. C'est Seven.
Ouais.
Sept, réalisé par David Fincher. Fincher, je crois que c'était son deuxième film seulement à titre de réalisateur, son premier qui était Alien 3. Tout le monde l'a vu, cette. Tout le monde sait c'est quoi.
Moi, on m'en a trop parlé. Et quand je l'ai vu, je vais te dire ça. Puis, on va trouver ça moyen.
Moi, c'est l'atmosphère, l'ambiance glauque, tu sais, ouais. Gore, noir, son, sale, verte. Brad Pitt qui joue un colérique. Morgan Freeman qui joue le vieux Danny Glover de Service, mettons, de L'Arme Fatale. C'est le gars qui achève, là, le sage.
Un an et demi plus tard, je me suis réessayé. Pas capable
de me. Oui, je sais, je me rappelle, tu m'en avais parlé de ça, puis c'était spécial, pareil.
Et finalement, je pense que ça a été 5 ans plus tard. Mon coloc de l'époque, Pierre, il dit: ah, moi, mon blonde a loué Seven. Ah, j'ai dit: tiens, ça me tente, là. Me semble que c'est le bon timing.
Je suis prêt, là.
Et là, j'ai trippé. Rien à comprendre là-dedans. J'ai trippé comme un malade.
Ah, c'est fou. Ouais. Des enchevêtrements, tu sais, c'est. Tout s'entremêle, tout est un but, il y a tout de. Ça amène vers, inévitablement vers la finale. Puis tu peux comme pas t'en sortir.
Puis à chaque fois, j'oublie toujours Brad Pitt. Il le fait-tu? Ben, il le fait pas à la fin. C'est tellement bien réalisé que tu sais, là, hey, vas-tu le faire?
Puis il est bon, hein, Brad Pitt, parce que on voit pas ce qu'il y a dans la boîte. On comprend ce qu'il y a dans la boîte.
Ouais.
Mais on voit pas ce qu'il y a dans la boîte.
Ouais, exact. Comme un acteur qui doit se mettre dans.
Ouais, c'est ça. Il y a rien dans la boîte, c'est un acteur. Mais bon, en tout cas, on sait. Je dis quand il n'y a rien. C'est... En tout cas, c'est ça. Fait que ça, c'est Seven. J'ai Pulp Fiction.
Oui.
Un incontournable. De Quentin Tarantino. Deuxième film de Tarantino. Auparavant, c'était Reservoir Dogs. Ben, il y a eu une période où il était en fébrile. T'sais, c'était la saveur du temps, là, Tarantino. Ouais. Fait que, il en a sorti des affaires. True Romance, peut-être, te rappelles-tu? C'était un scénario de lui, réalisé par Tony Scott. Une histoire avec Elvis, puis Christian Slater jouait un gars qui tuait quelqu'un en amour avec un autre. Honnêtement, je ne me rappelle plus trop. Je sais qu'il y avait l'idée de base du film Natural Born Killers, c'est Quentin Tarantino. C'est le film de Oliver Stone. Fait que Pulp Fiction, ben, il n'y a rien à dire de plus. Pulp Fiction, tout le monde connaît. Pulp Fiction avec Bruce Willis, John Travolta. Ben oui, Danny a le poster en arrière, on peut y nommer. Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman. Ce film-là a mis plusieurs comédiens sur la map. En fait, c'est le retour de Travolta.
Oui.
Ce film-là, c'est le retour de Travolta. Ving Rhames a commencé, ben, il a été mis sur la map avec ce film-là. Christopher Walken, qui jouait le père, un petit rôle, de rien pas tout. Il était là-dedans, la fameuse danse, regarde. Tim Roth. Ah, ce film-là, il est fou. Il était fou. Là, tu sais. Bon, les films de Tarantino sont toujours généralement fous et très textuels.
Oui.
Beaucoup. Fait que c'est ça pour Pulp Fiction. J'ai The Matrix.
Oui, le premier.
Le premier. Ben, de toute façon, les autres, c'est des années 2000.
Ouais, c'est vrai.
On passe des années 90. Fait que le premier Matrix, c'est des frères Wachowski avec Keanu Reeves. Ben, science-fiction, idée de base géniale, où un monde parallèle au nôtre, fait que le vrai monde est dégueu, puis on vit tous dans un rêve, entre guillemets, puis il faut combattre les machines qui ont pris le dessus. C'est
effets spéciaux innovateurs.
Oui, en plus. Puis les frères Wachowski arrivent de nulle part, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient fait un film de gangster avant, je pense. Puis encore là, je suis même pas sûr. c'est ça, les effets spéciaux. Comme je vous dis, l'histoire. Généralement, je m'attends toujours à la base à l'histoire. C'est les scénarios qui viennent me chercher en premier. C'est le squelette du film, de toute façon. Là. Puis comme vous allez voir, depuis le début, c'est pas mal le scénario. Les scénarios sont forts dans mes films que je choisis. Là, c'est des gros scénarios. Le prochain, je pense que c'est peut-être le summum des scénarios. C'est Cyrano de Bergerac.
Oui.
1990. Réalisé par Jean-Paul Rapneau. Qui est juste en alexandrin. Ce film-là est en alexandrin. C'est-à-dire, c'est un poème du début à la fin.
Effectivement.
Tout ce qui est dit est en alexandrin. C'est-à-dire une verve de 12 pieds... comment on dit ça? Dans 12
verges.
12 verges. Alors, je connais pas les termes exacts d'un poème alexandrin, mais en tout cas, ça a 12 quelque chose de long. Là. Je sais pas c'est quoi, là. Mais c'est ça. Puis, Depardieu, là-dedans. C'est Cyrano, là. On l'oublie complètement. Pas à cause du nez. Il disparaît derrière le personnage. Puis bon, c'est tiré du roman d'Edmond Rostand, qui date des débuts des années de 1900. Une histoire impossible entre Cyrano, la belle, comment elle s'appelle, je me rappelle, Roxane, je crois, de mémoire, qui, elle, aime un beau mec qui est une cruche. C'est un nono, malheureusement. Et fort en gueule, c'est Cyrano, puis bon, ben, il prend son trou. Il va aider le beau gars. Une histoire tragique d'amour. Ah, une autre. L'autre film, Barton Fink. Ben moi, mon initiation à l'univers des frères Coen, c'est Barton Fink, qui a été grand gagnant à Cannes. Je pense qu'il avait gagné tout, il avait tout raflé à Cannes, je pense. Meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleur scénario, meilleur film, si je me trompe pas. Là. C'était Barton Fink. C'était avec Turturro, John Turturro qui jouait à Barton. John Goodman jouait à un personnage ambigu. Je crois qu'on ne sait pas encore trop c'est, si c'est le diable ou juste un vendeur quelconque fatigué de son travail. Ou les frères Coen riaient un peu du système hollywoodien. Et ils riaient un peu d'eux aussi parce que c'est un scénariste qui... Le problème de la page blanche, il fallait qu'il écrive. Puis il ne savait pas trop comment fonctionner. Puis il y avait de la misère. Ça se passe dans les années 50-60, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus trop. Là. Bon, les frères Coen, j'avais vu auparavant le film Arizona Junior avec Nicolas Cage. Puis c'est une comédie très basique. Là. C'est une bonne comédie, c'était drôle. Mais, tu sais, j'avais pas accroché. Oh, wow, Coen, c'est des Coen, eux autres. Oh, ouais, c'est bien bon. Non, après ça, il y a Miller's Crossing que j'ai connu après. J'ai découvert, à cause de Barton Fink, j'ai découvert tout ce que les Coen ont fait, dont justement Miller's Crossing que j'ai chez nous. C'est un cadavre sous le chapeau. Très bon film. Excellent film. Puis j'ai découvert Blood Simple, leur premier film sur 85-86. Un film noir. Un hommage au film noir. Très dur d'ailleurs. Là. Ça se passe comme les années 80. C'est un film noir, c'est la grosse période, c'est les années 40-50. Là. Bon, ben là, ça se passe dans les années 80, puis c'est un petit peu plus cru. Un petit peu. C'est pas une comédie. On est loin de la comédie. Fait que c'est ça pour les frères Coen, Barton Fink. L'autre, un incontournable, pour moi en tout cas, Silence of the Lambs.
Oui.
Le silence des agneaux. Avec le duo Jodie Foster et Anthony Hopkins, Hannibal Lecter et Clarice.
Le meilleur des...
Oh, c'est le meilleur de la gang.
Ouais.
C'est vraiment le meilleur de la gang. Hein. Hannibal venait même pas à cheville du Silence des Agneaux. Puis encore moins l'autre, là. C'était quoi, le
quatrième? Red Dragon.
Alors, Red Dragon, bon, c'était correct. C'était correct. Moins bon qu'Hannibal. Parce que la signature au niveau de la réalisation était so-so, là. C'est quand même Ridley Scott qui a fait Hannibal. Puis c'est un bon réalisateur. Faut y donner quand même, même si je trippe pas sur tout ce qu'il fait, là. Puis l'autre, le quatrième, là, c'est le genre de prologue, là.
Ouais.
C'était quoi, donc? Hannibal Rising, je pense?
Exact.
Ça, c'était gagne. Celui-là, on n'en parle même pas. Ouais, c'est ça. On n'en parle même pas, celui-là. Silence of the Lambs, 91-92, dans ce coin-là. Qui, lui aussi, a raflé beaucoup de prix. Très mérité. C'était réalisé par Jonathan Demme, qui, lui, avait par la suite Philadelphia, qui a, lui aussi, été mis en nomination plusieurs reprises. Mais bon, ça fait pas partie de ma liste. Et mon dernier, et non le moindre, Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks qui gagnait son premier Oscar avec celui-là. Après ça, ça a été Philadelphia. D'ailleurs, j'en parlais tantôt, c'est bizarre. Hein. Ça donne la même, je viens de penser. Je fais, oh, gagnons ça, toi, coïncidence. Fait que c'est ça. Forrest Gump, personnage. C'est quoi le nom? Ma mère parlait de.
Maman disait toujours.
Ouais, la vie est comme une boîte de chocolat.
Oh, je sais pas le reste.
Ouais, c'est, la vie est comme une boîte de chocolat. On en prend un, mais on sait pas trop qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on découvre, je sais pas trop, là, en tout cas. C'est toujours la fun. Forrest Gump, c'était l'histoire des États-Unis qui passait au travers des yeux d'un simple d'esprit. C'était grandiose. Du grand art. Du grand art et des effets spéciaux qui passaient inaperçus.
Ouais. Très bien fait.
Ouais, qui prenaient pas toute la place. L'intérêt était le personnage en soi. et l'histoire. Fait que c'est ça, Valice.
Ben, ça m'a rappelé, maudit, tel film, j'ai oublié ça, tel film, j'ai oublié ça.
Ben, je vais faire pareil avec toi, j'imagine, non?
Mais on a certains films en commun.
Ah ouais? Pas beaucoup, c'est vrai, là, mais quelques-uns. Ben, sur 10, si j'en ai 2-3, c'est déjà beaucoup.
Et donc, ben, il y aura une autre pause, et après...
C'est Danny!
Avec mon top 10, 90.
Il va se peindre dans le coin.
Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez, Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net.
Nous sommes de retour pour mon top 10 90. Et comme je disais avant la pause, on a certains films en commun, quelques-uns. Et j'en ai oublié plusieurs. Face Off aurait sûrement été dans ma liste.
Tu vois?
Ah ben oui.
Toi, t'aimes ça beaucoup?
Ben oui. C'est vrai, Speed, c'était un bon film. Je me souviens, tout le monde louait ça et disait ah, on n'a même pas envie d'aller pisser. On pourrait faire pause, on n'y pense pas. Là, tu sais. C'est un DV. Ben, dans ça là, c'est un VHS encore.
Oui, oui, encore.
Puis il y a un autre aussi, je ne me rappelle pas, mais en tout cas. Je me lance. Moi, j'ai pas vraiment fait de notes, mais je me rappelle un petit peu certains films que j'avais mis de côté parce que ben, je fasse des choix.
Là. Ok, tu n'avais pas fait de bonnes notes, toi?
Ben, je l'avais mis, mais il y a certains films, je n'étais pas sûr que c'était des années 90 aussi.
Ah, ok.
Alors, je me lance. Avec un premier film. Moi non plus, il n'y a pas de position.
Okay.
The Crow.
Le Corbeau.
D'Alex Proyas. Ou Proyas. Ouais. Avec feu Brandon Lee.
Qui est mort sur le plateau.
Exactement. Fait qu'il paraît que dans certaines scènes, c'est pas lui.
Oui, ça c'est vrai. Ça, je me rappelle ça.
Je ne vois que du feu.
Ouais, ils ont collé sa face.
Ah.
Okay. C'est quelqu'un qui se promène, puis ils ont mis sa face en info. C'est bien fait aussi. Là.
La trame sonore était
oui, fun aussi. Oui, était solide. La musique ouais. Était vraiment solide.
Ça a marqué l'époque. Ça fait très années 90.
Oui, je me rappelle d'une tonne de The Cure là-dessus.
C'est un film de 94, d'ailleurs. Et puis...
Il y a eu deux suites, je pense. Au moins, minimum. Une série télé.
Oui, j'ai vu le deuxième. Puis
c'est Vincent Perez qui joue dans le deuxième.
J'ai pas risqué d'écouter les autres. C'est un personnage tiré d'une bande dessinée.
Oui.
Je trouvais ça le fun parce que Alex Proyas, dans ce film-là, puis dans Dark City aussi, il fait souvent des extérieurs en studio. Ça donne un cachet particulier. Mmh. Tu le vois qu'on n'est pas vraiment dehors.
Non, ouais, c'est, ouais, ça
donne
c'est vrai.
Ça donne un cachet. Puis, ben, c'est un genre de super-héros, mais tu sais, il n'y a pas de rayon puis de flash bizarre. C'est tel quel, là.
C'est quoi qu'il pouvait faire, lui, exactement? Il peut juste pas mourir?
Oui, en autant que le corbeau est en bon état aussi, parce que si tu...
Non, il est suivi toujours par un corbeau, c'est
ça? Oui, le lien, le pouvoir est relié au corbeau.
Fait que si on tuait lui, il fallait tuer le corbeau,
c'est ça?
Oui. C'est vieux, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu.
Ce qui est intéressant, c'est que même lui, là, il sait même pas pourquoi tout à fait qu'il est là, puis il sait pas ce qu'il est vraiment. C'était pas...
Mais il faut qu'il venge... Lui, il fallait qu'il venge
sa... Il vengeait sa fiancée.
OK.
Puis, juste sa résurrection. C'est une scène dans un cimetière, il mouille, il sort de sa tombe, il gèle. Tu sais, c'était pas la grosse affaire, la résurrection, avec les rayons de lumière bleue, puis tout. Ça avait l'air vrai. Puis, tu sais, le personnage, lui, il est perdu là-dedans, puis, le moment donné, il décide de se maquiller, comme on le sait. D'ailleurs, j'ai une figurine juste là.
Ben oui.
Alors, ouais, un de mes films préférés, c'est vraiment ça, The Crow. Ensuite.
Il cache la feuille, hein. Il veut pas que je voie aucun.
Toujours en 94. Mon poster que tu m'as donné une couple d'années. Interview with
ben
the Vampire.
Oui, j'ai oublié celle-là, Colin, c'est vrai. Ben, je sais pas si je l'ai mis dans ma liste puis je l'ai flushé.
Interview with the Vampire de Neil Jordan.
Neil Jordan.
Que lui, il faisait plus de vidéoclips, je pense, tu sais?
Non.
Du documentaire? Non.
Non, c'est plus des films sociaux. Mettons, on va appeler ça de même. Là. Crying Game, c'est lui, là. Entre autres. Là.
OK.
Ouais, mais il faisait pas d'informatique, ça c'est sûr.
Donc, une adaptation
peut-être des... Peut-être une adaptation de, du Chaperon Rouge dans le milieu des années 80. Bon, 80.
Adaptation d'un roman d'Anne Rice.
Anne Rice, oui.
Qui, je pense, c'était la première fois à l'écran de Kirsten Dunst. Évidemment, Tom Cruise dans un rôle de méchant. Ça, c'était,
on n'était pas habitué à ça.
C'était une de ses premières fois.
Ouais. Ouais.
Brad Pitt, qui était dans son ascension. Là, c'était Brad Pitt partout. Puis, c'est le premier film de vampire que j'ai vraiment aimé. Là. Parce que je sais qu'avant, il y en a eu un autre qui était Dracula, de Francis Ford Coppola.
Oui, oui, celle-là, oui.
Qui d'ailleurs est dans mon top. Je vais en parler au pire tout de suite après, mais...
Moi, tu veux le faire, oui.
C'est juste que Dracula, sur le coup, j'avais pas embarqué. Mais celui-là, Entretien qu'un vampire, j'avais embarqué d'aplomb.
Ben, moi, c'est bon que t'en parles, parce que moi, ce que j'aimais de ce film-là, entrevue avec un interview, en tout cas, peu importe, là, c'est que c'était, on n'était pas habitué à ce genre de vampire-là.
Non.
Tu sais, on toujours était habitué vampire, monde au crucifix, ben, puis l'ail, puis...
C'était souvent des films de comédie. Ouais. Beaucoup des années 70-80, là.
Ben, j'ai pas connu les Hammer, hein, tu sais, les studios Hammer qui font beaucoup de films.
Mais sinon, il fallait aller dans la période de Christopher Lee. Là,
pour ben, c'est ça. Eux autres, c'est lui. C'est ça que je te dis.
Fait que, ouais, vraiment, à partir de là, j'ai.
Ben, Anne Rice, elle en a fait quoi, 3-4 Des romans concernant la stat, entre autres.
Ouais, mais tu sais, on parlera pas trop de.
Non, on parlera pas de
la Reine des Damnées. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Entretien qu'un vampire, c'est un de mes films des années 90, 94. Je vais aller tout de suite en 92 pour Dracula, de Francis Ford Coppola. Sur le coup, je n'avais pas embarqué, parce que c'était trop style, la réalisation, le montage. Par bout, je trouvais que ça faisait publicité, vidéoclip, parce qu'à un moment donné, Dracula, Gary Oldman, qui séduit Winona Ryder, avec du vin, puis là, t'as comme une transition, tu vois les bulles passer, t'sais, comme dans un message publicitaire, puis moi... Moi, je n'étais pas capable de m'embarquer là-dedans. Et lui tripait, mais moi, non. Je n'étais pas prêt. Mais ça a fait comme Seven, tu sais. À un moment donné, je l'ai vu, puis ça a fait « aïe, aïe ». Là, je l'ai depuis ce temps-là. Il est en DVD, puis je l'ai acheté.
Ben, c'est ça, c'est stylisé.
Ouais.
C'est vraiment stylisé.
C'est ça.
C'est ça.
Puis, pour un film de 92, il a vraiment été chercher la façon de faire des débuts du cinéma. C'est juste qu'il est en couleur, là, mais tu sais. On voit même, d'ailleurs, le premier cinématographe... dans l'histoire.
On fait longtemps. D'ailleurs, je suis dû pour la voir. Hein.
Ensuite, ben moi aussi, j'ai Forrest Gump.
Ah, bon.
Robert Zemeckis. C'est un de mes réalisateurs, je pense. Je ne dirais pas que c'est un de mes préférés. J'ai pas de réalisateur.
Mais Zemeckis, il y a peu de faux pas. Il y en a, là. C'est sûr qu'il y en a, là. Mais ils sont pas faciles à compter. Toi, tu as aimé beaucoup le film de Apparence.
Oui.
Tu as beaucoup aimé ça. Ouais, Forrest Gump, qu'est-ce qu'il a fait? Évidemment, les Back to the Future.
Ben oui.
qui a marqué l'imaginaire.
Fait que Forrest Gump, on en a parlé tantôt.
Ouais, Forrest Gump, c'est ça.
Mais tant qu'à parler de Tom Hanks, The Green Mile, La Ligne Verte.
La Ligne Verte, c'est ça.
Très bonne distribution. Je me souviens pas le nom des autres acteurs, là, mais c'était tout des bons
acteurs. C'est la première fois qu'on voyait apparaître ce Clark de Duncan. Comment ça? Michael Clark Duncan. C'est le gros, là. Le gros noir.
Oui.
Sam Rockwell jouait dedans, je pense.
Il y a Gary Sinise, bien sûr.
Oui, Gary. Mais honnêtement, je ne me rappelle pas des autres de la distribution, mais il y avait des noms connus, tu sais, des visages connus. Là.
Et puis, ben, la fameuse souris, hein, qui je me pose une vraie, j'imagine. Fait que...
Sûrement. C'est Frank Darabont qui avait fait ça. Puis je pense que ce film-là suivait le film par excellence des internautes à travers le monde. Ce qui est The Shawshank Redemption.
Ouais.
C'est Frank Darabont qui a fait une adaptation d'un roman de Stephen King. Puis Shawshank Redemption, que j'ai beaucoup aimé, mais qui fait pas partie de ma liste, comme vous l'avez pu l'avez entendu, là, a été réalisé par Frank Darabont. C'est Green Mile aussi.
Un film, je me souviens pas qui l'a réalisé... Puis malheureusement, j'ai pas le même document qu'à mon bureau, donc j'ai pas l'année avec moi. Mais c'est avec Robin Williams, L'homme bicentenaire.
J'ai même pas vu ça. C'est Columbus, je pense, qui a réalisé. C'est Chris Columbus.
Et avec Sam Neill.
Sam Neill joue là-dedans?
Ouais.
Okay.
C'est le père de famille. qui achète Robin Williams, le robot.
OK. Évidemment. T'aimais ça?
Oui.
Je suis dû pour l'avoir. Je l'ai vu. Continue.
Ellie aussi, qui est l'amateur par excellence de Isaac Asimov.
Asimov. Mais c'est tiré d'un roman d'Asimov?
Oui, je ne sais pas jusqu'à quel point si c'est fidèle ou inspiré. Okay. Là, mais oui, c'est bien.
Ça se passe sur une période de combien de temps? Sur
plusieurs années, parce que Robin Williams connaît une c'est ça, il rentre dans la famille de Sam Neill.
Oui.
Qui a une petite fille. Puis Robin Williams se rend jusqu'à la fille de cette fille-là.
Oh.
Pour la marier, finalement.
OK. Pour la marier, OK.
Ouais. Fait que. Il se rend assez loin.
Ben là, ça fait quand même une couple de générations.
Oui. Puis ça se rend même jusqu'à temps que cette fille de la fille meure de la vieillesse.
C'est sa femme, meurt,
ouais.
Vraiment?
Oui. On s'en va loin, là.
Hé, hey, mon Dieu. Crème, ça dure combien de temps, ce film-là?
Un bon 3 heures, ça.
Hein? À ce point-là?
Puis, au début, c'est plus un robot, même si on reconnaît un peu Williams.
Évidemment.
Mais le but, c'est qu'il veut devenir un homme. Donc, à la fin, c'est vraiment... Même au milieu du film, c'est vraiment lui.
OK.
Puis c'est ça, il essaie de ressentir les sentiments de l'amour, tout ça. Puis...
OK, fait que lui, il analyse. C'est surtout un robot qui essaie d'analyser les émotions?
Ça fait longtemps. Il analyse puis il cherche d'autres personnes comme lui. Ben, d'autres robots comme lui.
Ça se passe des années... Ouais, 2100, 2200, plus loin encore.
Je m'en rappelle pas. Mais... Disons, à l'ère où est-ce que tu as un robot domestique chez vous. Là.
OK, ouais. Évidemment, ça peut être assez loin.
Ouais. Ouais, très bon film. En tout cas, moi, je l'ai aimé. Et lui aussi. Okay. Alors, il m'en reste 3. Ben, il y en a un qu'on a parlé. Terminator 2.
Mais il est là, bah. Mais James Cameron, il signe et marque. Pas compliqué.
C'est mon préféré des Terminators. J'ai pris beaucoup de temps à voir le 1. Je pense que ça fait à peine 3 ans que je l'ai vu.
Ouais, puis c'est sûr que quand tu le regardes avec des yeux...
D'aujourd'hui,
ça fait un peu désuet.
Fait que, oui, Terminator 2, on en a parlé tantôt.
Ah, ben c'est ça. C'est comme un tout. C'est un film complet. Là, tout est dedans. Les effets spéciaux, comme tu dis, il n'y a pas tant que ça. Mais quand ils sont là en tabarouette.
Il y a de l'action et des poursuites. Puis...
L'histoire est solide, quand même. Là.
Ah oui.
Ah oui, elle se tient bien. Là. Puis elle fait une bonne suite. C'est pas évident, quand même. Les histoires de retour dans le passé. Là,
non, c'est ça.
C'est toujours touché, ça. Toujours bien, bien touché.
1993. Softimage innove.
Softimage? Ah, hein, 93, c'est un peu... Non.
Steven Spielberg. Mon premier film au cinépark.
Ah, je sais. Ah, oh, Colin. Ouais, je l'avais sur ma liste, je l'ai rayé.
Jurassic Park.
Ah oui, c'était fort.
Moi, j'avais aucune idée c'était quoi. D'ailleurs, je l'ai vu un an après que ça est sorti. Une affaire de dinosaures. Je sais pas pourquoi, ça m'attirait pas plus que ça. Je pensais que c'était du Walt Disney, puis ça parlerait là, des dinosaures qui parlent. Je sais pas pourquoi. T'sais. J'arrive au cinépark. Bon, il y avait les pierres à feu en première partie. Et après, il y a ce film-là qui joue. Tabarnouche! C'est vrai. Ouais, il y a de l'action, puis on n'est pas gros dans nos culottes quand le dinosaure attaque l'espèce de Jeep. Là.
Là, ouais. Ah, mais c'est comme tu dis, ça se perd, ces films-là, parce que... Justement, si tu allais en venir à ce sujet-là, maintenant, il y a trop de digital, tu sais, d'infographie.
Oui, parce que là, c'est un mix.
Ouais. Ben oui.
Il y avait de la 3D, il y avait du stop-motion, puis il y avait de l'animatronique.
Animatronique, dont le Jeep se faisait brasser, là.
Oui.
C'était une vraie marionnette, une mopette, là, qui a bougé.
Oui. Et c'était du Spielberg à son meilleur, dans le style film... fantastique, familial, qu'il a toujours fait. Et personnellement, ça a été le dernier, parce qu'après ça, il a fait son trip de film de guerre. Là, puis,
ouais, c'est de... Saving Private Ryan, Schindler's List. Puis...
C'est ça.
Ouais, après ça, il est devenu sérieux.
Ouais.
Puis la fameuse petite signature, là, les petits clins d'œil que Spielberg est capable de faire. Là. Tout le monde se rappelle de la poursuite du tyrannosaure quand la Jeep roule, puis grouille-toi, grouille-toi! Puis quand tu regardes dans le miroir, puis tu vois le tyrannosaure, puis tu vois le miroir, qu'est-ce que c'est? Les choses, c'est quoi? Ce qui apparaît dans le miroir peut être plus près que vous ne le croyez. Que le tyrannosaure, il est proche d'un cochon. Tu sais, c'est des petites affaires de main là, qui rehaussent l'humour. Là,
1999. I'm Night Shyamalan.
Ah! Oui, 99? Ah, oh, c'est vrai, je l'ai oublié.
Le sixième sens.
Ah, oh, je l'ai oublié. Je l'ai oublié.
Avec Bruce Willis.
Je sais pas si je l'ai oublié.
Et le nom du jeune qui m'échappe. En tout cas, c'est le petit gars dans AI de Spielberg.
Oui, c'est sûr.
Donc, c'est un film de fantômes qui n'avait pas besoin d'effets spéciaux.
Mais n'avait pas.
Les fantômes sont là, carrément.
Ouais. C'est le maquillage un peu quand même.
Ouais. Des frissons, puis des sauts, puis ouais. Une bonne histoire.
Puis un bon punch.
Ouais.
Puis le comédien était. Bruce Willis était gros, il était convaincant, là.
Oui. D'ailleurs, ça, c'était comme le nouveau style de Bruce Willis à part de faire des rôles à la John McClane.
Bruce Willis, on nous a habitué à le kidam héros qui arrive de nulle part. Qui se débrouille, puis que.
Il se voit-tu là-dedans, puis dans Unbreakable. Un rôle qui se ressemble un peu, un gars très calme, pas un mot plus haut que l'autre.
Ouais.
Fait que, ouais, le sixième sens.
Bon, tu te rappelles les fameuses pendaisons à l'école?
Ouais.
C'est fou, ça fait quoi? 3 secondes?
Ah oui.
Pas plus? Puis c'est loin, ils sont dans le fond, là. Il n'y a pas de gros plan. Ils sont dans le fond. Mais tu fais le saut.
Ah oui.
Seigneur.
Oui. Donc, mon dernier.
Dernier, oui.
Là, on est carrément dans un autre registre. Un film que j'ai vu il y a peut-être 2 ans. De 1990. L'éveil.
Awakening, je l'avais dans ma liste, je l'ai flushé.
Avec Robert De Niro et Robert Williams.
Hey, on broille-tu, hein?
Ouais.
Et qu'on broille.
Inspiré d'une histoire vraie.
Une vraie Madeleine.
Ouais. C'est. Hey. Ça se peut pas être aussi vrai que ça.
Ben, aussi.
De Niro, tu y crois qu'il est dans le coma, légumes, il sort, puis il retourne.
Ah non. Ben, Robin Williams, vous n'avez pas habitué trop à ça non plus. Là.
Aussi.
Quoique. Non. Non, j'allais nommer Good Morning Vietnam, mais on sent encore le Williams cabotin un peu. Là, tu sais.
Ouais.
Là, il jouait plus sérieux. Là. Mais là, dans l'éveil, il jouait un médecin.
Ouais.
C'est tout. C'est un médecin.
Un médecin que les autres médecins
plus ou moins.
Trouvent pas crédible dans ce qu'ils disent quand ils avancent. Puis... Ou bien ils sont jaloux. Il y en a un, ben, tant qu'il est parti. Il y en a un que j'ai pas mis. Mais ça a influencé ma façon d'écrire moi des films et réaliser des trucs. Et c'est un des rares films de Joel Schumacher.
OK. Continue.
1990.
Oh, Flatliner?
Flatliner.
C'est que tu m'as dit?
Ligne interdite.
Ah ouais?
Avec Kevin Bacon, Carver Sutherland, Kiefer.
Kiefer, ouais.
Julia Roberts.
Ouais. Oliver Plague, je pense.
Exact.
Ouais.
Bon film.
Oh oui, c'est bon. Je ne rappelle même pas c'est quoi. C'est quoi dont il se faisait? Il se
tuait? Ouais. Il s'enlève la vie de façon cliniquement. Puis après une couple de minutes, c'est ça le
défi. Pourquoi il faisait ça?
Ben,
je me rappelle même pas, gars.
C'est le personnage de Kiefer qui lance ça.
C'est tous des médecins. Hein. C'est tous des étudiants en médecine, je pense.
C'est ça.
C'est loin, ça.
C'est le personnage de Kiefer qui lance cette idée-là parce que, justement, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté.
OK.
Puis les autres le trouvent con, mais. Lui, il dit au pire, je vais le faire tout seul. T'sais. Mais comme c'est ses amis, ils vont
m'aider à revenir.
C'est ça. Et finalement, c'est rendu un défi qui ne restera pas le plus longtemps de l'autre côté. Puis il ramène.
Il ramène des cochonneries, les autres, non?
Ouais, ouais.
Des démons, des fantômes, je sais pas trop quoi.
Ouais, des péchés oubliés, je sais pas quoi. Là. Ouais. Fait que c'était un des rares bons films de Joel Schumacher.
Ben, il y en a un qui était pas si pire enragé avec Michael Douglas.
Ça. OK. Ah, ben.
Lui, il était pas si pire, celui-là.
Le nombre 23.
Ouais. Oui, c'est ça. Parce que tu fais un chat dans
ouais, parce que tu l'as pas trouvé si pire que ça quand même.
C'est coïncident, ça. C'est l'histoire de numérologie. Puis en tout cas.
De toute façon, tu vois que c'est vrai. Ça arrive à toutes les fois que tu viens ça.
Bah, ok, en tout cas.
Alors, c'était nos top.
Oui, c'est nos top 90.
Oui. Alors, ben, ça fut très plaisant et ce n'est que le début.
Mmh.
car en avril, on n'aura pas un, mais deux tops.
Oui, à deux semaines d'intervalle.
À peu près. 80 et 70. Alors là-dessus, nous nous reverrons dans le futur!
Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.deltar.net.